Bonjour à chacun. J'espère que vous avez passé un bel été. Sans transition, lisons dans Matthieu 14, les versets 22 à 33. Matthieu 14, 22 à 33. Le récit se passe juste après l'épisode de la multiplication des pains et juste avant l'épisode de la mort de Jean-Baptiste, si on peut parler d'un épisode. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il va vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme, » disaient-ils, et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Viens, » dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendant la main, le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es fils de Dieu. » J'imagine que vous connaissez bien ce récit. Ce n'est pas la première fois qu'on le lit. Peut-être enfant à l'école du dimanche, on a fait des dessins, on a fait des petites barques avec une petite voile. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance parfois à mélanger ce récit avec celui de la tempête apaisée, qui se trouve aussi dans l'évangile de Matthieu, mais au chapitre 8, les versets 23 à 27. Il y a une grande différence entre ces deux récits qui paraissent semblables. La grande différence, c'est que dans le premier récit, celui de la tempête apaisée, Jésus se trouve dans la barque. Il est là, il dort à l'avant, couché sur un coussin pendant que la tempête se manifeste et les disciples l'appellent au secours. Jésus présent dans la barque. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous rejoint bien, qui rejoint bien notre conception de la vie spirituelle. Nous vivons avec Jésus, Jésus est avec nous, nous sommes forts de cette promesse qu'il nous fait, « Je serai avec vous tous les jours de votre vie. » Je serai avec vous tous les jours de votre vie. Et pour nous, c'est une vérité cardinale. Et pourtant, Jésus aime bien parfois nous bousculer un peu. Et il n'a même pas peur, parfois, de se contredire. Il faut pas mal de courage, il faut pas mal de confiance en soi pour oser se contredire. Vous savez, surtout quand on est Jésus. Et dans ce deuxième récit, eh bien, on voit qu'il y a une différence fondamentale parce que le texte commence par ces paroles assez étonnantes, peut-être uniques dans l'Évangile. Jésus obligea, aïe, 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 ça c'est pas actuel, hein. Obligé, non, Jésus, tu te trompes, tu ne peux pas nous obliger, ça c'est pas possible. Nous sommes des êtres libres, nous sommes des êtres libérés. On fait ce qu'on veut, on pense comme on veut, on vit comme on veut, on prie comme on veut. J'ai bien aimé l'idée de lier les idoles avec nos relations, hein, avec nos relations, même avec l'amour. Ouais. On choisit, on est libre. Et là, Jésus oblige. Il oblige ses disciples à monter dans la barque. Il les embarque. Il les embarque dans quelque chose qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas choisi. Jésus, hop, il les envoie dans la mer. Il les envoie dans la mer. Il les abandonne. Il n'est plus avec eux. Lui, il part ranger. Ça, c'est le côté sympathique. Hein, vous savez, quand on a fait une fête, hein, on a tous vécu ça, vous invitez plein de gens à la maison, les gens partent, on est content, ils sont enfin partis. Hein. Mais il faut tout ranger, il faut faire la vaisselle, il faut passer l'aspirateur, parfois il faut même récurer. Jésus fait ça. Jésus range. Et Jésus s'en va prier. Jésus s'en va prier pour lui. Jésus s'en va prier parce que Jésus est en deuil. Le deuil de son cousin, le deuil de Jean-Baptiste, le deuil du précurseur. Ce deuil qui lui rappelle sa propre mort qui s'approche terriblement vite. Et Jésus a besoin de ce temps seul. On n'y pense pas. Jésus doit toujours être disponible pour nous. Mais est-ce qu'on laisse du temps à Jésus pour être Jésus? Et ce jour-là, il a besoin de cela. Il a besoin d'être seul avec son Père. Il a besoin de cette intimité. Il a besoin de laisser les disciples avec leurs discussions, avec leurs questions, avec leurs doutes, avec leur humanité, avec tout ce qu'ils sont d'extraordinaire et d'énervant en même temps. Parce qu'il ne faut pas se faire des illusions, les disciples étaient parfois énervants. Et il ne faut pas se faire des illusions, nous sommes aussi parfois énervants. Jésus les abandonne. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience de l'abandon de Dieu. J'ai vécu ça d'une façon très particulière, très étonnante, très dérangeante, à un moment où je ne m'y attendais absolument pas. Avec la Ligue pour la lecture de la Bible, chaque année nous faisions une retraite à la fin de l'été. Et cette année-là, nous étions partis dans le sud de la France, aux Abeillères. Je ne sais pas si vous connaissez les Abeillères. Et Daniel Bourguet, qui est le seul ermite réformé connu, en tout cas. Daniel Bourguet, qui est un homme absolument extraordinaire. Et nous l'avions rejoint, là, dans son abbaye. Et un peu en dessus, il a son ermitage, où il vit seul. Et trois fois par jour, il venait nous rejoindre pour les temps de prière et puis des temps de méditation de la parole. Et le deuxième jour, il nous a invités à méditer sur le texte des talents, la parabole des talents. Et alors que je commençais ma méditation, j'ai été frappé par une chose qui ne m'avait jamais touché jusque-là et qui a été comme une déchirure incroyable en moi. Le fait que ce roi donne du boulot à ses gens, il leur donne des talents, mais il leur donne du boulot avec ses talents, et au moment où il leur donne du boulot, il part. Et ça a été en moi quelque chose, une douleur incroyable, une douleur qui m'a rappelé, qui a mis en évidence, en particulier, la douleur de ma fille qui vivait tellement mal le décès de sa maman. Et tout à coup, j'ai été pris d'une colère contre Dieu. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourquoi est-ce que tu n'es pas là? Alors que tout en moi disait en même temps le contraire. Il est là ou il n'est pas là? Il est là ou il n'est pas là? Le soir, nous avions un temps de mise en commun et j'ai ouvert mon cœur avec toute cette colère qui était en moi. Et Daniel Bourguet a écouté avec beaucoup d'attention, beaucoup d'empathie aussi. Et il m'a dit, écoute, j'aimerais que demain, on passe du temps ensemble. Et le lendemain, je suis monté à son ermitage et on a passé, je pense, 3 à 4 heures à parler, à prier ensemble. Et on a parlé il a parlé aussi avec beaucoup d'amour et de respect et d'expérience sur cette dimension de l'absence de Dieu, de la distance de Dieu, alors qu'il semblerait que c'est le moment où nous avons le plus besoin de lui, et pourtant il n'est pas là. Quelques mois plus tard, Daniel Bourguet a édité un livre qui nous a tous beaucoup, beaucoup bouleversés. Ce livre s'appelle « Le silence de Dieu pendant la Passion ». Je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui est absolument extraordinaire. Et je me rappelle que quand mes collègues ont lu ce livre, on l'a lu ensemble à la Ligue, ils ont dit « Mais il te répond ». Et c'est vrai que pour en avoir parlé avec Daniel Bourguet quelques années plus tard, il m'a dit « Oui, c'est vrai, la rédaction de ce livre est partie de nos entretiens sur le silence de Dieu, sur l'absence de Dieu. Parfois, il les abandonne, il les laisse dans la mer. Et puis, si l'histoire s'arrêtait là, alors ce serait vraiment quelque chose d'épouvantable. Ça voudrait dire simplement que notre foi, c'est juste une réflexion philosophique, mais qu'il n'y a rien de solide. Jésus fait à ce moment-là, voyant la peur de ses disciples, Jésus fait quelque chose qu'il n'a jamais fait jusqu'alors. Il fait un miracle étonnant, parce que tous les miracles de Jésus sont là pour servir les autres. Il guérit, il soulage, il pardonne, il sauve. Mais ce jour-là, Jésus qui aurait pu prendre une barque, il aurait pu demander à un pêcheur, il y avait des barques partout là au bord du lac, de le prendre et de le ramener vers les autres. Non, Jésus marche. Jésus marche sur la mer. Dans la tradition juive, la mer, c'est le symbole de tout ce qui est désorganisé, de tout ce qui est étranger, de tout ce qui est impur. Jésus marche là-dessus. Jésus marche là-dessus. Et il rejoint ses disciples, affolés, terrifiés. Et là, il y a peut-être une nouvelle question qui peut nous être posée. Avons-nous déjà été affolés, terrifiés, bouleversés par la personne de Jésus? Ou est-ce que Jésus est juste pour nous l'ami, tellement gentil, tellement prévisible aussi, le conseiller, le sauveur? Cette présence qui sommeille au fond de notre barque et qui se réveille chaque fois qu'on l'appelle, toujours présent. La vie nous malmène, mais ce n'est pas grave, il est là. Et ce jour-là, Jésus a envie de dire autre chose à ses disciples. Il a envie de leur dire, la vie, ce n'est pas juste une promenade en barque. La vie peut être parfois tellement terrifiante, tellement compliquée, tellement exigeante, que vous avez besoin de plus, peut-être même de plus que ma présence qui dort sur le coussin dans la barque. Vous avez besoin d'aller au fond de vous-même. Et il n'y a que la notion de l'absence qui peut nous permettre d'aller au fond de nous-mêmes, au fond de la plus profonde exigence. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mais vous savez, si on sait où trouver Jésus, si on sait où il est, ce n'est pas la même exigence. Quand on a perdu quelque chose et qu'on en a vraiment besoin, vous devez partir, c'est l'heure. Vous prenez vos clés sur le petit meuble à la sortie. Vous savez, les clés de la voiture, ils sont toujours sur le petit meuble à la sortie. Vous êtes déjà en retard, mais les clés sont là. Ben non, elles ne sont pas là. Et alors ce geste anodin, ce geste familier devient paniquant. Mais où sont ces clés? Alors, moi j'appelle ma femme, j'ai dit, t'as mis où les clés? Parce que bien sûr, c'est toujours elle, forcément. Elle me dit, elles sont en place. Non, elles ne sont pas en place. Et le temps monte, et l'angoisse monte. Et le besoin augmente. Et voyez-vous, là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le besoin augmente. Jésus n'est pas un distributeur automatique de bénédictions, de réponses, de consolations. Jésus, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus que cela. Et c'est pour cela qu'il a laissé ses disciples seuls pendant quelques heures, pour faire monter en eux l'exigence. J'ai besoin de toi. Mais qui es-tu? Parce qu'alors Jésus se révèle différent de ce qu'il connaissait, de ce qu'il pensait savoir de lui. Jésus marche sur l'eau. Il ne fait pas du paddle, hein. Jésus marche sur l'eau. Il fait quelque chose qui est au-delà des lois naturelles. Newton se serait pris la tête dans les mains en disant « c'est pas possible ». Toutes les lois de la physique sont bafouées. Jésus marche sur l'eau. Jésus sort de ce qui est compréhensible, raisonnable, possible. Jésus est autre chose que cela. Et voyez-vous, si nous faisons de Jésus juste quelqu'un qui est capable de nous comprendre, qui est capable de nous rejoindre dans notre sphère bien humaine, alors nous pouvons aller voir un psychiatre ou un psychologue. Il y en a des très bons. Ils font ça très bien. Et la sécurité, j'allais dire la sécurité sociale, la LAMAL rembourse. Mais si nous voulons plus, si nous avons besoin de plus, alors nous devons découvrir la vraie personne de Christ. Et nous devons être capables, comme Pierre, de dire à Jésus, « Si c'est toi, alors fais-moi sortir de cette barque. Débarque-moi. Sortir de ma barque. Sortir de la barque de la raison pour entrer dans la dimension, non pas du déraisonnable, mais dans la dimension de la foi, dans la dimension de la relation obligatoire avec Dieu. Je crois que c'est ce que le psaume que nous avons médité ce matin essaye de nous dire. Cette relation obligatoire, je ne peux pas vivre sans cela. Comme Pierre qui fait 3 pas, 4 pas, 5 pas, 10 pas, on ne sait pas combien de temps ça dure, mais qui a un moment panique. Parce qu'il y a toujours un moment où nous doutons. Et son seul salut, ce n'est pas la barque, ce n'est pas ses habitudes, ce n'est pas son confort, ce n'est pas son expérience, ce n'est pas son témoignage. Son seul salut, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les frères et sœurs. Son seul salut, C'est la main du Christ. C'est la main du Christ. Et c'est ça. Et c'est ça. Être croyant. Être chrétien. C'est ne vivre que de cette relation-là. Que de cette relation-là. C'est être capable de se libérer de tout ce qui est raison, réflexion, religion, pour ne plus être que dans la relation avec Jésus, qui nous invite à vivre dans une autre dimension. Une dimension où l'échelle des possibles est différente. Une dimension où il n'y a plus que sa relation d'amour avec nous qui compte vraiment. Et alors nous pourrons traverser les épreuves. Et alors nous pourrons naviguer sur la mer, des tempêtes, embarquer ou désembarquer, marchant parfois sur l'eau, mais toujours avec Jésus, qui nous aime, qui nous rejoint, qui nous défie, qui nous stupéfie. Amen.